Culture Sport, tout le sport en Charente, tous les lundis soirs, 19h.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous écoutez Attitude, votre radio 98.3 Angoulême, Barbezieux et Cognac, 90.7 pour Ruffec et Nord-Charente, mais aussi sur www.attitudefm.com et en podcast rubrique sport. Bienvenue dans Culture Sport, votre émission hebdomadaire chaque lundi 19h-20h30. Nous accueillons aujourd'hui Arthur Beauchaud. Dont c'est un jour très particulier pour toi. On a quelque chose à te dire tous ensemble. Bon anniversaire, Arthur.
Merci, merci aussi.
Bon, parfait. Bon. Donc, 22 ans, donc
la fin. Tu peux donner son âge, Arthur.
Oui, 22 ans.
Voilà, bon. Très bien.
Parfait. Arthur, donc, ce que je te suggère, c'est que tu fasses un retour sur le début de saison. Pour, on s'était appelé en mai ou en juin, je crois. Qu'est-ce qui s'est passé depuis?
Non, mais on a connu un début de saison compliqué pour les gars. On a enchaîné beaucoup de blessures, beaucoup de blessures graves aussi, notamment avec Louis Lapierre, qui a une alors j'arrive jamais à le dire, le muscle s'est coupé en deux entièrement. Donc voilà, ça nous a un peu amputé. Perdre des leaders aussi vite et aussi longtemps, ben ça, c'est vite compliqué. Et puis ensuite, ben on s'est inscrit dans une mauvaise spirale et on a galéré toute l'année pour en sortir. Mais ce qui est de bonne augure, c'est que depuis un mois, on est sorti de cette mauvaise spirale et que ça marche fort. Donc ça, c'est plutôt cool.
Est-ce que tu peux nous faire un détail des blessés qu'il y a eu ?
On a eu Théo Bacot qui a été longtemps blessé au genou. On a eu Louis Lapierre, du coup, qui est resté plus de 2 mois sans faire de vélo et presque 3 semaines sans pouvoir marcher. On a enchaîné ensuite Kylian qui est violemment tombé. Qui c'est d'autre qui a été blessé? Jordan qui s'est fait renverser par une voiture. Où là, on a eu très très peur parce qu'il est passé à 2 doigts de pas s'en sortir. Non, ça n'a pas été une année simple.
Et à ce propos, Arthur, en ce qui concerne Jordan, alors évidemment, hein, je lui souhaite un bon rétablissement, mais il n'était pas seul. Il était en train de s'entraîner. Je crois qu'il était avec son coach.
C'est ça.
Il faut quand même rappeler. Ce fait divers qui aurait pu tourner au drame, c'est bien pour les auditeurs, c'est bien pour quand on s'entraîne sur la route et notamment il y a une route pour tous qui est très importante et malheureusement il y a des choses qui se passent. Moi je le vois aussi sur la route qui sont inadmissibles. Est-ce que tu peux un petit peu, on va pas rentrer dans le détail dans le débat parce que je suppose qu'il y a une enquête qui a été ouverte par la gendarmerie. Est-ce que tu peux nous rappeler les circonstances de cet accident rapidement s'il te plaît?
Non, bon, il y avait Jordan et son entraîneur qui partaient faire un entraînement basique hein, sur les routes sans même énormément d'intensité hein, un entraînement foncier ce qui est le plus normal. Ils se sont retrouvés sur les petites routes de Dordogne où il y a quand même pas énormément d'automobilistes avec une voiture qui arrivait dans leur dos lancée à 90 km/h et qui les a percutés par l'arrière. Donc Jordan a été projeté à 20 mètres dans le champ à droite. Il s'en est plus que bien sorti vu l'état du vélo et vu des circonstances et son entraîneur lui on est quand même sorti avec des vertèbres écrasées on s'est tous fait peur ce jour-là. Quand les téléphones se sont mis à sonner mais au vu des circonstances de l'accident on est content d'avoir l'entraîneur et Jordan en vie.
Comment ça va aujourd'hui?
Bah ça va mieux parce que au final Jojo dans son malheur il a pas eu énormément de mal, quelques lésions, des plaies, des points de suture au visage, des choses comme ça. Mais il a repris le vélo. La chance qu'il a, c'est qu'il se souvient pas de l'accident, donc il n'y a pas d'appréhension particulière à retourner sur la route parce qu'il a aucun souvenir. Mais ça va être compliqué quand même de reprendre la forme pour cette fin de saison.
C'est l'occasion peut-être de refaire un petit message de prévention entre cyclistes et automobilistes.
Oui, c'est toujours l'occasion de refaire un petit message. Alors après, moi je fais partie de la commission départementale qui installe des panneaux verts un peu partout en Charente. Là. Et c'est vrai que depuis l'accident de Jordan, je suis un peu désabusé. J'ai l'impression que tout le monde met plein de choses en place. On essaie de faire de la prévention dans les clubs parce que bah, les cyclistes sont pas forcément, ils sont aussi fautifs hein, dans l'histoire. Hein. Il n'y a pas que des bons cyclistes et des mauvais automobilistes. Hein, la faute est partagée. Mais je sais pas, des fois j'ai un peu l'impression qu'on se bat avec des coups d'épée dans l'eau et que ça avancera pas ou que ça avance pas. Et alors, oui, c'est important de faire de la prévention, mais à l'heure où on se parle, je sais pas comment faire passer le message mieux ou plus qu'on le fait déjà.
Alors, ce qu'il faut dire, et c'est bien Arthur, parce que tu reprends un petit peu ce qu'avait engagé Michel Coudray, c'est très bien à 22 ans de jalonner les routes des départementaux pour notamment voir et positionner ces panneaux grâce notamment au conseil départemental et conseil régional. Il faut dire également, Arthur, que c'est le seul département où il y a pratiquement 90 à 100 panneaux.
Ouais, même plus que ça, si on compte les panneaux des voies vertes, ouais, des circuits balisés cyclisme, ouais, on a globalement 70% du territoire qui est couvert par des panneaux de prévention. Alors après, qu'est-ce qu'on peut faire de plus que ça?
Je sais pas. C'est compliqué, oui. On va revenir au sport, en ce qui concerne donc le sein top 16. Il y a quelques très bons résultats qui sont satisfaisants, notamment le week-end dernier en Bretagne. Et puis Rudy qui s'impose également 8 jours auparavant. Tu peux nous expliquer toutes ces performances depuis un mois et demi?
Non, mais je disais en début de retransmission que voilà, on a connu une année difficile où c'était compliqué de faire tourner les courses à notre avantage, qu'on était toujours à contre-temps, souvent en galère. Et c'est vrai que depuis un mois, on connaît la situation inverse, où on est plutôt maître de la situation. Et Marmande et le Tour de Ruisse où on va chercher 2 victoires en élite, c'est le résumé parfait, parce qu'à Marmande, oui, Rudy gagne, mais derrière on a Kylian qui va faire 2, on a Mathieu qui va faire 4, on a Antonin qui va faire 6 et Louis qui va faire 5. Donc ça c'était un vrai plaisir de mettre autant de coureurs dans les 10 premiers. Et au Tour de Ruisse, pareil, on a Rudy qui gagne, mais on a Louis qui va faire 3e, Antonin qui va faire 10e, et on a encore 2 coureurs placés dans les 20 premiers derrière. Donc c'est une autre façon de courir. On court débridé, on court libéré dans la tête, libéré dans les jambes, du coup. Et il y a énormément de réussite. Et quand ça marche, ça fait des trucs énormes, parce qu'à Marmande, on a mis 5 coureurs dans les 10 premiers, donc c'est énorme.
Qu'est-ce qui a été le détonateur, Arthur, pour que vous lâchiez entre guillemets les chevaux? Est-ce que c'est le fait que la fin de saison approche, que finalement on se dit les courses il y en aura plus beaucoup, donc on se lâche?
Le détonateur, je pourrais pas le dire. Ça a été le déclic. On l'a senti nous en cadrant à Bordeaux-Saintes dans l'été, où là il y a une course vraiment aboutie où tout le monde s'est lâché, mais il y a pas forcément eu de résultat. Mais dans la façon de faire, c'était déjà mieux. Donc là, on a senti un vrai déclic de la part des coureurs, et derrière, ça s'enchaîne bien, ça s'enchaîne même plus que bien, et on part sur une fin de saison assez bonne. Hein. Je prends en exemple la dernière Coupe de France, hein, qui est un petit peu le révélateur au niveau national. Il y a 27 équipes sur la dernière manche de Coupe de France. Il y a seulement 13 équipes qui marquent des points sur 27. On fait partie de ces 13 équipes-là, donc on a repris notre place parmi les 15-20 meilleures équipes françaises. Donc on est de retour à ce qu'on doit faire.
Ouais, c'était à Fougères d'ailleurs, cette dernière manche de Coupe de France.
Enfin, Fougères.
Tu peux nous faire un petit compte-rendu par rapport à l'Océan Top 16?
Bah Fougères, c'est une course particulière dans le sens où c'est une vraie classique. On a des secteurs pavés, une arrivée dans un raidar avec des passages à plus de 15% à faire tous les tours. Donc on est vraiment sur la vraie classique bretonne. On a eu une course complètement débridée avec une forte chaleur, énormément de coureurs qui sont passés à la trappe du fait de cette chaleur. Et au final, on arrive à mettre 2 coureurs dans les points, donc c'était plutôt bien, sachant qu'il y a une quarantaine de coureurs qui finissent la course sur 180 départs. Et ça nous permet de marquer des points. Alors certes, on marque pas énormément de points, mais on fait partie des 13 équipes qui marquent des points, et ça, je trouve que c'est révélateur, sachant qu'il y a 27 équipes au départ.
Oui, complètement. Et puis ça, on va dire que vous terminez la Coupe de France de belle manière, sachant qu'en plus l'épreuve d'avant, qui était le Tour de Haute-Saône, si je me trompe pas, a été annulée au dernier moment, en vous mettant un peu au fait accompli, vous les équipes.
Oui, le Tour de Saône-et-Loire, c'est une des péripéties de l'année où toute la, on est arrivé, enfin, on était en championnat de France le dimanche, le Saône-et-Loire devait commencer le mercredi, donc on était directement descendu sur Mâcon et toutes les deux heures c'était ça partira, ça partira pas, peut-être, on verra, on n'est pas sûr, pour au final nous dire ça à 18h la veille de partir, bah, au final vous pouvez rentrer chez vous. Donc oui, c'était une course un peu bizarre, un moment un peu spécial pour tout le monde, mais depuis ça, on s'en est bien remis.
C'est peut-être aussi le fruit qui paye aujourd'hui sur la jeunesse, parce que bon, les trois quarts se connaissaient pas. Je pense à Antonin et bien d'autres qui sont rentrés dans le sein de Top 16. Et puis, vous êtes peut-être aussi l'équipe la plus jeune au niveau national.
Ouais, on est parmi les 3-4 équipes les plus jeunes. Oui. On a un petit peu dans l'équipe une confrontation avec des garçons comme Rudy ou Louis Lapierre qui sont nos leaders et qui ont 25-26 ans, qui sont les coureurs d'expérience, qui sont les plus aptes à aller chercher des résultats. Et en contrepartie, on a des coureurs comme Antonin Souchon, qui a 19 ans, qui était un des meilleurs juniors français, puisqu'il termine troisième des championnats de France l'an dernier. On a Théo Bacot, et Ryan Lachny, qui ont que 20 ans. Donc, on a une équipe qui se confronte dans le sens où on a des coureurs d'expérience qui essayent de faire évoluer les jeunes et les jeunes qui essayent de faire leur mieux possible pour accompagner les anciens. C'est une mayonnaise qui a été compliquée à faire prendre. Mais maintenant qu'elle a prise, c'est un vrai régal. Et puis on voit que ça tourne parce que c'est Rudy qui a gagné deux fois, mais derrière Rudy, c'est jamais les mêmes coureurs. On a Kylian, Mathieu, on a Antonin, on a Théo qui a été chercher un top 20. On a tout le monde. Enfin, tout le monde est là. Et ça, c'est un vrai régal. C'est aussi pour ça qu'on va pas forcément énormément l'effectif l'an prochain.
À ce sujet-là, Arthur, puisqu'on est dans la période des transferts, est-ce qu'il y aura des mouvements à envisager pour la saison prochaine ?
Oui, bien sûr. On va pas renouveler l'effectif autant qu'on l'a pu le faire l'an dernier. C'est-à-dire qu'on va pas recruter 8 ou 10 coureurs. On va plutôt essayer de se limiter à 4, voire 5 coureurs grand maximum. Mais c'est vraiment grand maximum. Pour l'instant, on a 3 recrues jeunes. Mes 3 recrues d'avenir. On a le petit Julien Asile-Lozac qui fait partie des meilleurs juniors français, des meilleurs grimpeurs juniors français, qui a été chercher des top 10 en Coupe du Monde. Donc c'est plutôt intéressant. On a le petit Luc Wenger.
Il arrive d'où ce coureur ?
De Limoges.
D'accord.
De Limoges. On a Luc Wengarten qui fait partie, qui est à l'heure où on se parle, il doit être 20e des 19 ans français. Donc, qui est aussi un coureur d'avenir. Et on a aussi à côté de ça le jeune Mathis Stephen, qui est notre dernière recrue en date, qui lui a été chercher des médailles au championnat de France, Piste, et qui vient de terminer 4e d'une course internationale junior. Donc, on a des coureurs très jeunes, mais des coureurs d'avenir. On va essayer de supplanter ça avec un coureur d'expérience ou peut-être un ex-pro. On va voir ce qu'on arrive à faire. On l'a recruté, mais on ne devrait pas avoir énormément de changements l'an prochain.
Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des départs prévus ou pas ?
Oui, il y a des départs prévus. Il y a des coureurs qui arrêtent leur carrière, qui se consacrent à leur vie professionnelle. Il y a des coureurs que nous, on ne conserve pas. Mais oui, il y a quelques départs prévus. Oui.
Ce sera un effectif de combien ?
Cette année, on était 17 et on va tourner à peu près autour de 17, voire 18. Ouais. Si jamais on a l'occasion de prendre un 18e, pourquoi pas ?
Et pour anticiper sur la saison prochaine, est-ce par rapport à la Coupe de France de DN1, est-ce que vous avez déjà des idées par rapport au format ? Est-ce que le nombre de courses est déjà fixé ? Et surtout, cette année, donc il n'y avait pas forcément de relégation. Est-ce que l'an prochain, les relégations reviennent ?
Il n'y a pas de relégation en Coupe de France. En revanche, on va arriver au terme de la licence N1, un peu comme les licences.
Oui, c'était une licence de 3 ans, c'est ça ?
Donc l'année 2022 sera l'année charnière puisque dans l'hiver de l'année 2022 va falloir redéfendre son dossier pour la validation des labels. Au niveau des Coupes de France, il y a 2-3 courses qui commencent déjà à ressortir et sur les courses qui ressortent, ça serait plutôt un calendrier qui pour l'instant nous serait favorable, notamment avec les 3 jours de Cherbourg en finale où c'est une course où on a toujours énormément de réussite. C'est une course qui nous plaît. On a un coureur, Mathieu Demotis, qui en plus de ça est natif de Cherbourg. Donc, on a 2-3 attaches en Normandie quand même.
Ah oui, donc avec le régional de l'étape, vous êtes forcé de faire un bon résultat.
Et c'est sûr. Et puis, c'est une course qui nous plaît. On a toujours pris du plaisir là-bas, toujours eu de la réussite là-bas. Donc, la finale aux 3 jours de Cherbourg me convient parfaitement.
Et d'ailleurs, j'aborde aussi un sujet qui n'a pas été abordé jusqu'à présent. C'est votre organisation du contre-la-montre à Douza, qui était en plus le jour, on parlait de ton anniversaire, là c'était le jour de mon anniversaire à moi, parce que c'était le 25 juillet. En plus, c'était un championnat régional, je crois qu'on n'a pas eu depuis. Quel bilan tu tires de ce contre-la-montre, de cette journée?
Ah, c'est un bilan mitigé dans le sens où j'ai fait le plein. La préfecture et les conditions sanitaires nous ont forcé à bloquer à 200 partants et on aurait facilement pu monter à 250 voire 260 partants. Je suis un petit peu déçu de ça, de devoir refuser du monde. C'est jamais plaisant. Mais non, c'est une vraie réussite. On a eu.
Ah bah oui, c'est une vraie réussite, oui.
Un monde fou, un record de parcours qui est encore tombé avec des coureurs de haut niveau. Voilà, Louis Pijourlet qui gagne a explosé le record. C'était énorme.
C'est une activité, ça. Enfin, c'est une discipline, la course contre la montre individuelle, où vraiment en France, c'est pas ancré encore.
Non, on n'est pas parmi les nations. On essaye. Hein, y a des nations qui sont.
Bien sûr.
Pro chrono, hein, les Anglais, généralement c'est les Anglo-Saxons sont assez fans de ça. Les pays nordiques aussi. Nous, on a une petite lacune à combler. Hein, tout le monde est au courant. Alors, c'est compliqué de le combler aussi parce qu'il n'y a pas énormément d'organisation.
C'est ça.
Même nos coureurs du top 16 qui sont élites, c'est un petit peu leur job. S'ils font 3 voire 4 chronos dans l'année, c'est grand maximum.
Ah oui, c'est pas beaucoup, effectivement.
Donc, et les vrais spécialistes du chrono, une fois qu'ils en ont fait 10, c'est qu'ils ont été chercher tous les chronos qu'ils ont pu trouver. Donc, il y a un vrai déficit là-dessus. Et de toute façon, tant qu'il n'y aura pas de pratique de contre-la-montre, tant qu'il n'y aura pas de course contre-la-montre, on ne pourra pas progresser.
Est-ce qu'on ne gagnera pas le Tour de France encore, hein, je pense? Parce que cette course contre-la-montre est très importante.
Oui,
on a de moins en moins, parce que quand tu vois les distances chrono, ouais. Avant on avait des chronos de, quand j'étais gamin, de 50, 60 kilomètres parfois. Maintenant, si t'as un chrono individuel de 30 bornes, c'est vraiment un maximum, hein.
Ouais, c'est vrai.
Non, c'est sûr. Après, on a quand même des belles cartes au contre-la-montre, hein. Rémi Cavagna, on est,
Oui.
Il est standard français, mais
il fait sixième au championnat du monde, c'est ça?
Oui, je crois. Face au gratin mondial, il nous manque encore, un petit quelque chose pour pouvoir jouer les premiers rôles, je pense.
D'ailleurs, tu disais que les coureurs, c'est que seulement 3 ou 4 contre la montre. Est-ce que tu as connaissance d'autres organisations de chrono comme la tienne, qui accueille quand même des coureurs élites, ou est-ce que c'est vraiment très très peu disséminé en France? Et puis finalement, vous avez pris, vous, un créneau qui était quand même relativement disponible.
On a pris un créneau qui est pas forcément très concurrentiel, ça c'est sûr. Après, il en existe d'autres. On a le chrono Châtel-Rodé, on a le chrono à Torigny en Vendée. On en a d'autres, hein, des formats comme ça. Après, on se retrouve, nous, élite, avec un autre souci aussi, c'est que c'est des chronos qui tombent en face de courses par étapes, où les coureurs, entre faire une course de 5 jours et aller faire un chrono de 10 km, ils vont sur la course de 5 jours, parce que pour leur carrière et pour leur évolution dans le vélo, c'est plus intéressant. Le vrai souci, c'est qu'il n'y a plus autant de chronos sur les courses par étapes. Ouais. Avant, la course par étapes, c'était la journée mythique. Il y avait une journée de contre-la-montre, c'était même obligatoire. Maintenant, les courses par étapes avec un chrono, en tant que directeur sportif, j'ai dû en faire 2 cette année.
Ah ouais.
Globalement,
il faut aller sur le tour du Poitou-Charentes pour que le chrono soit vraiment décisif maintenant.
C'est ça.
Et l'an prochain, donc, est-ce qu'il y aura une 3e édition? Et si oui, j'imagine que oui. Est-ce que vous avez déjà planché un peu sur une date d'organisation? Est-ce que vous allez un peu changer le créneau ou pas au final?
Alors oui, tous les voyants sont au vert pour l'instant pour qu'on parte sur une autre édition. Cette année, on va pas prendre le championnat régional parce qu'il faut que ça tourne. Hein, Châtel-Rodé roulait cette année, donc on peut pas prendre le créneau tous les ans. Mais niveau de la date, on va rester dans l'été parce que c'est pour nous le plus simple. Ce qu'on fait tout le temps, enfin pour décider quand on met le contre-la-montre, c'est qu'on essaye de regarder avec le calendrier élite quand est-ce qu'il y a un trou, quand est-ce qu'il n'y a pas trop de courses, quand est-ce que les coureurs du top 16 peuvent être disponibles, parce qu'ils ont aussi ce rôle-là en Charente, hein, d'être un petit peu les étendards du vélo, et le chrono, c'est important qu'il soit là. Moi, je veux qu'il soit, que les coureurs exceptionnels soient au départ, dans le sens où il y a des petits minimes qui sont là, qui les regardent, qui sont autour du camion, et comme ça, on essaye de promouvoir le vélo en Charente.
Tu parlais du Tour du Poitou-Charente, Arthur. Est-ce que un jour vous pensez pouvoir y participer?
Non, on n'a pas vocation à participer au Tour Poitou-Charente dans l'État. On est très bien en National 1 à faire de la formation, à encadrer les jeunes, à essayer de les faire progresser. Le monde professionnel a quelque chose d'un petit peu différent dans le sens où ils travaillent avec des produits finis, voire des produits bruts. Une fois que le produit fini, il convient pas, ben on le jette et on en achète un autre. Moi, c'est pas ma vocation et c'est pas ce que j'aime faire, donc je préfère autant rester en N1.
D'accord. D'ailleurs, en termes de structuration, là, le niveau, est-ce qu'il y a un énorme gouffre entre guillemets entre une équipe de N1 comme la vôtre et puis une équipe, alors sans parler de Continental Pro, mais au moins de Continental, comme par exemple, je crois que Aubert 93, enfin Saint-Michel Aubert est en Continental maintenant. Il y a une grosse différence vraiment entre ces deux structures.
Une différence de niveau, oui et non. Oui, dans le sens où ça reste quand même une équipe pro, donc ils ont cette facilité à recruter les meilleurs coureurs de National 1. Mais entre Pro Imo qui est en National 1 et Aubert 93, il n'y a pas une réelle différence de niveau. Les meilleures équipes de National 1 valent les équipes de Conti. Non, il n'y a pas un écart de niveau qui est stratosphérique. Il y a un écart de calendrier surtout. Il y a un écart de matériel parce que ça reste des équipes professionnelles qui sont un petit peu mieux abouties. Mais sur l'aspect sportif, non, ça se voit à peu près. Ouais.
Et en termes de structuration et de budget, enfin grosso modo,
ils sont fatalement un petit peu plus chers parce que la licence Conti, faut la payer. mais après, il y a certaines Conti, les National 1 jouent à peu près dans la même catégorie.
À propos de budget, Arthur, quel est le budget de l'Océan Top 16?
Nous, on n'a pas un budget énorme, hein, on fait partie des derniers budgets de France au National 1. On tourne entre 300 et 380 000 à peu près.
D'accord.
On n'a pas un budget énorme. D'autant plus que nous, la particularité, c'est qu'on ne gère pas que la National 1. Il y a le centre de formation, il y a les sélections cadets, il y a l'équipe fille qui arrive.
On va en parler.
Et du coup, on a un fonds de roulement un petit peu différent de certaines équipes où il y a certaines équipes en National 1, la totalité de leur subvention, c'est la totalité de notre budget. Donc, c'est pas tout à fait pareil, on joue pas forcément dans la même catégorie. Après, on se bat avec nos armes, on essaye de faire au maximum pour les coureurs se plaignent pas, hein, globalement, ils sont bien lotis quand même, et on essaye de travailler comme ça. Hein.
Parfait. Oui, c'est vrai que quand vous courez aussi avec des compétiteurs qui sont sur le point de passer professionnels, hein, parce que j'ai vu Menant à la couronne, j'ai aussi regardé la course. Bon, il y a quand même du direct énergie, il y a quand même il y a quand même des équipes comme la G2R. Oui. Vous courez avec ces coureurs là, vous.
Ouais, c'est tout le paradoxe de la National 1. C'est-à-dire que il n'y a pas de statut dans le cyclisme de sportif. Donc c'est des coureurs qui vivent une vie précaire. Hein, c'est un secret pour personne. Dans toutes les équipes, c'est comme ça. Mais on leur demande les mêmes sacrifices qu'un coureur professionnel. De temps en temps, ils vont courir avec les professionnels et on leur demande ces sacrifices-là pour passer professionnel, sachant qu'ils n'ont aucun statut derrière. Et c'est tout le paradoxe du monde National 1, c'est qu'on demande autant de sacrifices qu'un pro avec zéro avantage. Donc oui, c'est pas un monde qui est simple pour les coureurs. C'est pour ça que nous, on essaye de mettre toutes les conditions pour qu'ils puissent y arriver le plus facilement possible. Mais c'est le paradoxe, on court avec les pros, on a les mêmes obligations ou les mêmes devoirs que les pros, et derrière il y a tout qui suit pas. Donc ouais, c'est difficile.
Est-ce que tu suis Greg Pouvreau et Yannis Seguin, Arthur?
Oui, on suit les jeunes de la région qui ont fait le choix de partir avant DU. C'était récemment annoncé. On les suit, on a un œil en tant que National 1 et National 1 de la région. On a un œil forcément sur les juniors de chez nous. C'est pour ça qu'on recrute local, hein, sur les jeunes, les jeunes cette année. Parce que cette année, il y a un vrai vivier en Nouvelle-Aquitaine de jeunes talentueux. qui devrait exploser d'ici 2-3 ans. Ça, c'est une certitude pour certains. Donc oui, on a un œil sur tous ces juniors-là. Après, malheureusement, cette année, entre les jeunes qui ont fait des médailles au championnat de France piste, les jeunes...
Même championnat de France sur piste.
Oui, il y avait cette année, je pense, une dizaine de juniors qui avaient la capacité de passer en national. On n'a pas la place de les prendre tous.
Bien sûr.
On peut faire des choix, mais oui, on suit tout le monde.
Bien sûr.
Vous écoutez bien Attitude, vous êtes dans Culture Sport. Nous retrouvons Arthur Bossot, Océane Top 16.
Tu as fait allusion à l'équipe féminine que vous êtes en train de constituer. Est-ce que, à ce jour, bon, moi je connais Euphrasie Guillaumard.
Oui.
Parce que je la côtoie de temps en temps. Où est-ce que ça en est, ce team, Arthur, puisque vous avez travaillé depuis le début de saison pour avoir une équipe qui soit, je crois, N2, je crois, non?
N2 ou N1, ça dépendra oui. de la commission fédérale. Bah, pour l'instant, on en est dans la création pure et dure, la labellisation, les envois de dossiers à la fédération. Maintenant, faut attendre le retour de la fédération, qu'elle valide le dossier ou pas. Et puis, on espère que ça passera. On a tout mis en œuvre pour que ça fonctionne et pour que ça marche. Maintenant, à voir comment ça se déroulera.
Combien d'effectifs actuellement? Parce que je sais qu'il n'y avait pas de, il y avait. Enfin, quand j'ai vu Frazier m'a dit, il y avait sept filles.
Oui, ils vont tourner. L'effectif va tourner aux alentours d'une dizaine de filles.
C'est pur local.
On va essayer de recruter au local. Après, il n'y a pas le suffisant pour partir en national avec les filles de Nouvelle-Aquitaine. Donc, il va falloir aller en recruter quelques-unes dans d'autres régions. Mais globalement, on va rester sur du national déjà. Et puis, oui, une majorité de local.
Qui est-ce qui va s'en direction sportive, c'est qui les prend? Ah, c'était ta question, excuse-moi.
Oui, c'est ça. Non, vas-y, Christian, vas-y.
Qui prend la direction sportive de l'équipe?
On a la chance au comité départemental d'avoir 3 diplômés d'État. Donc on a de quoi relayer ça. On a le Bertin, hein, c'est lui, hein, qui monte le team, qui sera le plus souvent sur les courses, je pense. Mais après, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir 3 diplômés d'État dans le département. Donc il y a moyen que ça tourne assez régulièrement.
Si le dossier évidemment est accepté, bon, ce qui devrait notamment être accepté parce que c'est un gros travail qui est reconnu, l'objectif ça serait de se maintenir, parce qu'à ce niveau-là il faut se... est-ce que il y a des points pour se maintenir en N2, N1
chez les filles?
Oui.
Non, ça fonctionne.
Moi, ça fonctionne.
Ça fonctionne un peu comme chez les garçons, c'est des licences qui sont délivrées pour un certain nombre d'années. Donc après, faut évidemment avoir une crédibilité sportive. Mais globalement, une fois que la licence est délivrée, après, c'est à l'équipe de travailler au mieux pour essayer de faire évoluer sa structure.
C'est bien ce système de licence. Stéphane était venu en studio avant le Covid simplement pour nous parler un peu de cette révolution, qu'il fallait un peu révolutionner la N1, notamment au niveau des licences qui étaient accordées pour 3 saisons. J'imagine que ça c'est bien pour vous, ça vous permet de travailler sur du moyen terme et de ne plus avoir justement l'inconnu de la relégation entre guillemets. Ça c'est la première question que je voulais te poser. La deuxième, c'est est-ce qu'il y avait encore des choses à modifier en N1 selon toi pour rendre le système encore plus viable?
Oui, il y a des choses à modifier en N1 encore. Alors c'est sûr que ce système il est mieux qu'il a été qu'il était avant, mais je pense pas qu'il soit encore optimal. On se retrouve avec un souci où en fait ça manque de crédibilité un petit peu sportive, ce genre de choses. Le système est évidemment bien parce qu'avant ça pouvait pas fonctionner. Avant il y avait une Coupe de France, il y avait 4 manches de Coupe de France et puis à la fin des 4 courses on disait bah toi tu restes en N1, toi tu restes en N2. Mais je connais pas un seul salarié ou un seul sportif qui est jugé sur même pas 3% de son activité, c'est pas possible. Donc c'était sûr qu'il fallait arrêter ce système-là. On voit que ça fonctionne puisque depuis là on arrive au terme de la première licence, donc des premières 3 années. Il y a des projets d'équipes qui veulent monter en continental, il y a de plus en plus de nationales, il y a de plus en plus d'équipes, il y a de plus en plus de, de monde. Donc ça veut dire que le projet marche. Maintenant, il faut, à mon sens, remettre une vraie valeur sportive à tout ça. Je pense qu'il faut, pourquoi pas, remettre des relégations, mais un petit peu différemment, sur l'ensemble du calendrier. Faire revenir à un format un petit peu comme le foot où les équipes sont jugées sur l'ensemble de leur calendrier.
Finalement, remettre des points un peu comme des points UCI à l'ancienne dans les années 90 où toutes les courses comptaient, il y avait des points suivant la catégorie de la course et finalement les coureurs marquaient des points suivant leur classement et on faisait le total et ça faisait le classement par équipe.
C'est ça, ça existe déjà. Nous, on a le classement direct vélo hein, qui reprend l'entièreté des courses de l'année.
Vous êtes 25e, je crois.
Ouais, on remonte petit à petit là. Ça y est, on a entamé notre remontée.
Vous êtes 25e.
On a déjà gratté une 5-6 places en deux semaines. Donc, on va essayer d'aller chercher le top 20 maintenant. Ça va être l'objectif. mais oui, je crois que
le top 16 hein, pour être d'accord avec votre nom.
Exactement. Mais je pense que ça serait peut-être pas déconnant de mettre des relégations sur ce classement-là qui reprend l'entièreté de l'année. Et de toute façon, quand on regarde le classement de la Coupe de France et quand on regarde le classement des National 1, on se retrouve à peu près dans les mêmes eaux-là. C'est-à-dire que nous, on termine 22e de la Coupe de France Hénin. Et à l'heure où on se parle, on est 23e équipe Hénin sur 27. Notre remontée. C'est pas forcément incohérent de fonctionner comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on pourra pas continuer à rouler à 27 et 1. Le vrai souci qu'il y a aussi, c'est que le vainqueur de la Coupe de France ou le vainqueur du classement direct vélo et 1 n'a aucune accessibilité et ça lui permet pas d'atteindre le Monte Conti.
C'est juste pour la gloire en finale, finir premier.
Oui, c'est ça. Et le vrai souci, il est là. C'est-à-dire qu'il y a un coup près, qui est au-dessus de la tête des équipes en leur disant, attention, si ça fonctionne pas, tu vas redescendre.
Oui.
Si ça fonctionne, il se passera rien. Donc
au finir premier ou 15e, bon, bien sûr, on est forcément toujours satisfait de finir premier. Et puis ça reste quand même l'accomplissement d'une belle saison. Mais au final, grosso modo, tu finis premier ou tu finis 8e, il y a rien de mieux, rien de moins, quoi.
Non, hormis la gloire sportive,
voilà, bien sûr,
qui est quand même importante, mais
ça n'importe. Pouvoir attirer potentiellement d'autres sponsors ou que nos propres coureurs soient peut-être contactés par des équipes de dessus.
Il y a beaucoup d'équipes qui veulent monter en Conti. Il y a Pro Imo et le projet est tombé à l'eau. Oui. Il y a Nantes, il y a Dijon. Il y a énormément d'équipes qui veulent monter en Conti et qui mériteraient d'être en Conti. Il y a Vendée U qui a annoncé sa. Oui. Ça aussi, hein, qui veulent monter en Conti. Et on se rend bien compte que la Coupe de France ne permet même pas ça. Donc, il manque un étage à la fusée. Et le vrai problème de la fusée, c'est qu'il manque cet étage-là. Si on supprime les étages du bas, les étages du haut, ils se feront jamais. Donc, il faut que tout le monde se mette autour de la table, qu'on arrive à réfléchir. Mais ça, c'est compliqué.
Vous écoutez Attitude, vous êtes bien dans Culture Sport. Culture Sport, votre émission hebdomadaire, chaque lundi, 19h-20h30. On retrouve Arthur Bosso.
Vous avez des épreuves qui vous sont imposées en N1?
Les quatre Coupes de France. Les quatre Coupes de France et les Championnats de France. C'est les seules choses.
D'accord. C'est combien de courses à l'année?
Il y a quatre Coupes de France et un Championnat de France. Donc c'est ce qu'il y a.
Dans sa globalité, Arthur.
Nous, on fonctionne avec 100 à 110 jours de course.
Ouais, donc pratiquement tous les week-ends, ou pratiquement même deux fronts pour chaque week-end.
C'est quasiment tout le temps deux fronts par week-end, voire même deux ou trois fronts des fois. Mais c'est vrai que c'était le ridicule de la Coupe de France. On est à 100 à 110 jours de course par an et on est jugé sur quatre courses dans l'année.
Oui, complètement.
Ouais, c'est un paradoxe.
C'est un petit peu ridicule. Ouais.
Sur Arthur, sur la fin de saison, donc on est fin septembre là. La saison va bientôt se terminer. Quelles sont vos épreuves phares, auxquelles vous allez participer jusqu'à la fin de saison là?
On a le gros morceau de la fin de saison. Ça va être notre dernière course de l'année. C'est Paris-Tours. Paris-Tours Espoir. Donc ça, c'est un gros morceau. Parce que là, on va se retrouver avec les professionnels. Sur une course de renom en plus. Donc, ça va être notre gros morceau de fin de l'année. On a des courses qui nous tiennent à cœur. Hein. Je pense à Nantes-Segré qui nous avait permis l'an dernier de sauver notre Coupe de France. On a des, Voilà, les boucles de la Loire ce week-end, on a de quoi faire encore pas mal de choses, de trophée des champions aussi, mais on a encore 2-3 accessites à aller chercher. Ouais.
Est-ce que vous êtes allé faire une course au Pays Basque, comme c'est votre habitude cette année?
Oui. Ouais, en début de saison, on commence toujours par le Pays Basque. Un petit peu d'air de la montagne pour lancer la saison, ça fait toujours du bien. On a l'habitude d'aller au Pays Basque et on y retournera dès février prochain.
Quel résultat vous avez fait cette année là-bas?
Dur.
Ouais, ça a été plutôt bien le premier week-end parce qu'on a Clément Le Boutez et Louis Lapierre qui font 5 et 6 d'une étape. Ouais.
C'est bien, ça va.
Et après, le week-end qui a suivi a été compliqué avec des chutes. On a Antonin et Clément Le Boutez qui sont partis à l'hôpital. Donc, c'était un petit peu le début de nos déboires.
D'accord.
Et après, le Tour Sud-Charente organisé par la C4B.
Ah, le Tour du Charente, ça a été aussi une belle péripétie. On avait mis une tactique en place un petit peu trop ambitieuse. Je m'étais un petit peu
enflammé. Ça n'a pas payé.
Je m'étais un petit peu enflammé, ouais, personnellement, en tant que, sur le briefing. Donc, on a été à contre-temps toute la journée. On n'a pas fait ce qu'il fallait. Il y a 2-3 coureurs qui n'ont pas forcément respecté ce qu'il fallait faire. Et moi, voilà, de mon côté, j'étais un petit peu trop ambitieux sur la tactique. On a Louis Lapierre qui est tombé à un kilomètre de l'arrivée alors qu'il jouait le sprint du peloton. Donc non, c'était une journée compliquée. Ouais.
Assez compliqué en plus quand on joue à domicile.
Toujours. Nul n'est prophète en son pays, alors c'est
assez... Et oui, c'est compliqué. Mais c'est une belle épreuve auquel on peut associer Benjamin Didou.
C'est ça, c'est une magnifique épreuve. Ben et Club de la C4B font un boulot monstrueux. C'est une épreuve qui mérite de grandir et qui mérite encore de prendre du galon. Donc, c'est une épreuve magnifique.
Oui, puis en plus, ce qui était sympa, c'est que on pouvait la suivre en vidéo.
Oui.
Donc, je sais pas si c'est le cas de toutes les courses de ce niveau-là, mais celle-là, on pouvait la suivre en vidéo et c'était. Oui. Alors, j'avais regardé un petit peu parce qu'il y avait forcément des courses du top 16. Donc, c'était vraiment très sympa à suivre.
Oui, on est en train de prendre un virage aussi dans le monde du vélo. Il y a de plus en plus de direct vidéo sur les courses.
Oui.
Petit à petit, ça devient la norme.
C'est compliqué pourtant parce que autant retransmettre un match de football, moi je vois pour la CFC, pratiquement tous les matchs sont diffusés sur Internet. Mais bon, ça reste un terrain de foot, un terrain assez clos. Là, le vélo, finalement, vous êtes toujours en mouvement. Enfin, c'est une course de vélo. On voit le Tour de France qui a mis beaucoup de temps à se mettre en diffusion intégrale. C'est pas facile pourtant de retransmettre du vélo.
Non, c'est pas simple. Il y a beaucoup d'aspects à gérer. Les techniciens ont énormément de travail. Il y a aussi les aspects de réseau, hein, parce que
tout à fait.
Oui.
En France, c'est assez facile. Il y a l'antenne et les GPS qui suivent. Donc ça, le réseau, il y en a partout. Nous, sur nos petites courses ou plus petites courses, faut faire avec le réseau qui existe. Alors c'est un peu plus complexe parfois, mais on arrive à s'en sortir. Les organisateurs font un boulot énorme. Pour essayer de rendre tout ça le plus attrayant possible, essayer de faire venir du monde dans le vélo, créer des vocations et c'est assez essentiel, je pense.
Bien sûr, ça participe aussi au fait de entre guillemets de rajeunir le vélo et de le rendre plus moderne, plus attractif, comme tu le disais.
C'est ça. C'est exactement ça.
On arrive bientôt à la fin de ta première saison en tant que directeur sportif. Quel bilan tu commences à... J'imagine que tu commences déjà à tirer certains enseignements, à faire un petit bilan personnel de ta première expérience dans la voiture. Quel bilan qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur ton bilan de directeur sportif après presque un an de voiture?
Non, c'est un bilan bon. On a connu une année compliquée avec toutes les soucis sanitaires, les mises en place de protocoles, de passes, de tests où ça a généré énormément de travail en plus. Donc c'était une année fatigante pour tout le monde, mais c'est un réel plaisir de faire ça. J'ai le sentiment d'avoir la totale confiance des coureurs et du staff. Donc déjà au bout d'un an, c'est une réussite parce que d'avoir réussi à avoir la confiance de tout le monde, c'était important. Maintenant, faut continuer à travailler, continuer à apprendre parce que je reste jeune et il faut continuer à progresser pour pour étoffer le discours, étoffer la manière de faire et continuer à grandir et continuer à faire grandir l'équipe.
T'étais leur coéquipier pour certains l'an dernier, et puis certains coureurs sont entre guillemets plus âgés que toi, donc c'est vrai que c'est un contexte différent de finalement d'un parcours classique où on est coureur et on arrête sa carrière assez tard et on passe de l'autre côté un peu plus tard.
Oui, c'est différent. Après, il y a beaucoup d'échanges avec les coureurs. Je suis je fonctionne assez comme ça. Je parle beaucoup, j'essaie d'échanger au maximum avec eux pour avoir leur retour. Et ils sont pas hostiles à ma présence, donc c'est que tout se passe bien, je pense.
Que devient papa ? Et la deuxième question. Qui te remplace pour maintenant faire ce que toi tu faisais ou tu continues à le faire et tu es également directeur sportif.
Alors, pour répondre à la première question, que devient papa? Il vieillit.
Non mais on peut rester avec les jeunes. Attends.
Je le taquine avec ça.
On lui passe le bonjour d'ailleurs, c'est quand il écoutera l'émission.
Bien sûr.
Ah, il écoutera. C'est le petit pic qu'il entendra.
Oui, bien sûr. Comme ça.
Non, il va bien. Il prend plus un rôle de manager.
D'accord.
Dans la relation avec les institutions, les sponsors. Il vient de temps en temps encore sur les courses. Hein. Il a notamment fait quelques courses avec nous, la Coupe de France Chrono, ce genre de choses. Il est présent. Il est un peu moins présent qu'il a été. Mais il est encore là dans un registre un petit peu différent de ce qu'il a fait. Et pour répondre à ta deuxième question, on a Marjorie Conto qui nous est arrivée en début d'année, qui fait un boulot monstrueux auprès des écoles parce qu'elle intervient énormément dans le département. On a intervenu je crois que c'est l'année où on intervient dans le plus d'écoles. Donc ça démontre bien l'énorme travail que Marjorie fait. Elle arrive vraiment à éduquer nos jeunes Charentais à la pratique du vélo, donc ça c'est un aspect de plus que fait le département et elle le fait vraiment bien.
C'est bien parce que d'ailleurs une intervention dans une école, donc ça se passe sur plusieurs jours, plusieurs semaines parce que les gamins doivent apprendre à faire du vélo. Peut-être que certains le savent déjà le faire, d'autres non. J'imagine que ça se fait pas en seulement 2 heures.
En généralement, on fait 6 séances. Oui. Avec les jeunes, donc 5 séances d'apprentissage où là on va apprendre à freiner, apprendre à changer ses vitesses, apprendre à passer un obstacle, un virage. Donc vraiment ils finissent les 5 semaines, ils savent faire du vélo en toute sécurité dans à peu près tous les formats qu'ils peuvent rencontrer. Et la 6e séance, c'est la séance un petit peu sympa où là on va se balader, on part de l'école et on fait le tour du village. Généralement, ce qu'on essaye de faire et ce que Marjorie fait, c'est qu'elle se met en accord avec le projet pédagogique de l'école. Par exemple, si l'école fait un projet pédagogique sur l'écologie, ben on va voir l'éolienne qui est à côté, la petite fontaine, ce genre de choses. Donc, on essaie de faire une balade un petit peu éducative. Et c'est vraiment une mise en situation sur la voie publique. Donc, même si on essaie de prendre un maximum de chemin pour être en sécurité avec les enfants, ça les met en situation. C'est un moment de plaisir pour eux, pour l'école et pour les parents d'élèves qui sont là ou même les maîtres et maîtresses. Ça change de leur quotidien, ça les fait grandir parce qu'ils découvrent autre chose que d'être assis dans leur salle de cours. Donc, c'est une bonne expérience pour eux.
Bon, alors moi je me prends candidat, mais seulement pour la 6e séance. Hein.
Après avoir connu cette situation, moi je trouve que c'est bien ce que fait Marjorie, parce que après avoir connu cette situation compliquée que l'on a vécue avec le Covid, avec une perte de licenciés, faut pas se le cacher, quelles que soient les activités hein, sportives, il y a une baisse importante d'adhésion, quel que soit le sport, comme je le disais, et de travailler, notamment comme le fait Marjorie, dans les écoles, ça peut que être bénéfique au niveau du département et voire au niveau national.
Oui,
alors, un retour à la normale.
Oui, c'est sûr. C'est une prérogative qui est nationale, hein, parce que le savoir rouler a été mis en place dès cette année. Alors après, nous, on a un petit peu d'avance, parce que ça fait déjà 15 ans qu'on intervient dans les écoles.
Justement, est-ce que c'est justement un élément de votre dossier pour rester en DN1, ce savoir rouler?
C'est un élément
du dossier. Rien à voir.
Oui, c'est un élément qui compte, parce qu'on a, en tant que National 1, des obligations d'évoluer, enfin de faire évoluer notre territoire et d'essayer de dynamiser notre territoire. Donc nous, c'est quelque chose qu'on fait et qu'on fait déjà depuis 15 ans, là, l'intervention dans les écoles. Donc on a déjà cette avance et c'est aussi pour ça qu'on a une facilité à mettre en place le nouveau dispositif de l'éducation nationale. À côté de ça, oui, c'est hyper important d'intervenir dans les écoles. On se rend compte malheureusement que le Covid a sédentarisé la population. Les jeunes sont plus facilement attirés sur la PlayStation que sur aller faire le vélo avec ses copains de village. Les parents ont aussi plus en plus de mal à laisser leur enfant faire du vélo dans les ruelles ou sur la place du village. Parce que il y a de plus en plus d'accidents, malheureusement, c'est une vérité. Il y a encore quelqu'un qui est décédé en Charente il y a pas si longtemps que ça. C'est un vrai fléau et c'est vrai que l'intervention dans les écoles permet de démocratiser un petit peu la pratique, de rendre compte aux parents que si c'est possible en sécurité, que en plus de ça maintenant nous ils ont un apprentissage qui leur permet de se déplacer en toute sécurité. Ouais.
Voilà Arthur, nous arrivons au terme de notre émission. Donc encore une fois merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être fidèle au rendez-vous. Et si je peux me permettre pour toi, donc le mot de la fin, qu'est-ce que tu souhaiterais dire et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter?
Non, déjà merci à vous de m'accueillir à chaque fois, c'est toujours un plaisir. Non, le mot de la fin, on va essayer de terminer la plus belle des manières la saison, que les coureurs continuent leur progression et qu'on continue à passer des bons moments avec eux. Et si tout ça se passe bien, normalement, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas.
Parfait Arthur, merci beaucoup, on reviendra vers toi en janvier-février pour faire un point sur la nouvelle saison.
Voilà, merci beaucoup Arthur.
De rien, au revoir.
Au revoir.